Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes en direct sur le 88.8 de Radio Grenouille et nous allons parler pendant une demi-heure d'un ouvrage. Un ouvrage sorti l'année dernière aux éditions Wild Project, édition marseillaise, saluons-les. Un ouvrage intitulé Héro, H-E-R-O, entre parenthèses, S. Un ouvrage, un abécédaire autour de l'héroïne à Marseille, et pas que. Un ouvrage qui parle d'une drogue qu'on connaît, mais qu'on ne connaît pas, racontée par celles et ceux qui l'ont vécu. Bienvenue. Cet ouvrage héros a été écrit par Claire Duport, sociologue que nous connaissons bien sur les ondes de la Grenouille, qui est avec nous en studio. Bonjour Claire.
Bonjour.
Tout va bien ?
Très bien.
Ouais, parfait. Alors on va discuter un peu de... On a discuté déjà du processus autour de cet ouvrage à l'occasion de sa sortie l'année dernière. Une nouvelle présentation va avoir lieu jeudi 26 janvier à la librairie Transit. Et c'est à cette occasion qu'on se dit qu'une petite piqûre de rappel, c'est le cas de le dire, autour de cet ouvrage... elle n'était pas prévue celle-là. Une petite piqûre de rappel allait être nécessaire pour raconter un peu le processus de cet ouvrage.
Alors, cet ouvrage, il fait suite à 3 années de recherche qu'on a menées à l'échelle nationale et que j'ai coordonnée pour tout ce qui était les terrains marseillais. Et c'est une recherche qui porte sur l'histoire sociale et culturelle de l'héroïne en France, des années 1960 aux années 2000. Peut-être on reviendra sur pourquoi l'héroïne et pourquoi ces années-là. Oui. Mais en tous les cas, un gros dispositif de recherche qui a été soutenu par l'Agence nationale de la recherche et la ville de Marseille. Et parmi les attentes, d'ailleurs d'abord de la ville de Marseille, il y avait l'envie de pouvoir accompagner ce travail de recherche par la production d'un objet. En l'occurrence, il y en a eu deux, parce qu'il y a eu un film aussi, qui pouvait être diffusé largement à tout un tas de gens qui auraient été intéressés, aussi bien experts de ces questions que tout à fait néophytes. Voilà. Et c'est comme ça qu'est venue cette proposition d'ouvrage et qu'on a travaillé avec l'éditeur Baptiste Lanespèze à des formes d'écriture qui permettraient cette appropriation par tout le monde.
On rentre dans Héros par la lettre A et on l'a fini par la lettre Z, il me semble, tout va bien.
Comme l'abécédaire.
Voilà, c'est un abécédaire et dedans vous y allez aussi de la première personne dans la lettre E, par exemple. À extrait, vous racontez justement, vous revenez sur ce processus. Vous travaillez depuis longtemps, Claire, en tant que sociologue sur les thématiques de drogue et du trafic, notamment à Marseille. Et on voit comment, petit à petit, progressivement, vous vous êtes justement intéressé à l'héroïne.
Oui, parce que l'héroïne, c'est un, en tous les cas, pour ce qui concerne localement, la France et en particulier Marseille, c'est daté, c'est une époque. Ça ne veut pas dire que ça n'existe plus, loin de là. Mais dans la connaissance commune que l'on a des drogues, et en particulier de l'héroïne, et dans les imaginaires, l'héroïne, c'est la drogue des années 70, 80 beaucoup, pour Marseille aussi, dans les mondes populaires. Et puis, il y aurait quelque chose comme un déclin. Et donc, moi, je travaillais depuis très longtemps sur ces questions. Je m'intéressais beaucoup plus à des problématiques plus saillantes aujourd'hui, qui sont celles des petits trafics de rue dans les cités marseillaises, dans les mondes de la pauvreté. Et l'héroïne ne traverse pas ces mondes-là. Donc,
traverse pas ou traverse plus, du coup ?
Plus. Oui, oui, plus. Et donc c'est pas par cette entrée-là que je suis arrivée à me questionner sur cette histoire de l'héroïne. C'est davantage dans des réflexions de recherche avec d'autres chercheurs, parce qu'encore une fois, cette recherche, elle est collective, c'est toute une équipe et c'est à l'échelle nationale. Alors, c'est peut-être l'occasion de parler de ce choix, d'ailleurs, de ce produit et de ces dates. On voulait chercher, c'est-à-dire que les drogues, elles ont été systématiquement travaillées par l'angle sanitaire. Et pas seulement travaillées d'ailleurs dans le sens commun, quand on parle drogue, on pense toujours la santé, la mortalité, c'est dangereux, etc. Et elles ont peu ou pas même été travaillées par l'angle social, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça vient faire ce truc-là dans la vie de tous les jours de beaucoup, beaucoup de gens. Bon, et pour pouvoir étudier ce que ça vient faire dans une société, ce que ça vient nous dire d'une société, il fallait qu'on s'intéresse à un produit dont on aurait pu reconstituer le cycle complet. Or, il se trouve que l'immense majorité des drogues, il y a de nouvelles drogues d'ailleurs qui apparaissent tout le temps, mais l'immense majorité des drogues les plus connues sont encore beaucoup en usage, la cocaïne, le cannabis, etc., beaucoup en usage, et aussi connaissent aujourd'hui et chaque jour d'aujourd'hui des renouveaux, des fluctuations. Ce qui n'est pas exactement le cas de l'héroïne, parce que il se trouve, et c'est cette histoire sur laquelle on a travaillé aussi, qu'on raconte que l'héroïne est un produit qui a toujours existé. Enfin, pas toujours, hein, il est inventé, créé à la fin du 19e siècle, mais à partir de la fin du 19e siècle, on va connaître des usages, mais très marginaux et dans des mondes très spécifiques, des mondes d'artistes, des mondes très spécifiques. Et en tous les cas, pas de manière populaire. J'emploie pas le sens au sens pauvre, machin, mais populaire, les gens du commun des mortels. Or, c'est dans les années 70 que va s'opérer cette diffusion massive de l'héroïne en France en général, à Marseille en particulier, et où beaucoup, où tous les mondes sociaux, culturels, générationnels vont être touchés, jusqu'à atteindre un pic qu'on pourrait appeler quasi d'épidémie dans les années 80, à la fin des années 80. Et puis, à partir, donc on voit une courbe en cloche, comme ça, une courbe que, si on prend celle des usages et des trafics, qui augmente phénoménalement. Et puis, à partir du milieu des années 70, on voit cette courbe baisser, jusqu'à ce que ce produit quasiment disparaissent au tournant des années 2003-2005. Et donc, en choisissant de travailler sur ce produit et sur cette période, on pouvait reconstituer un cycle complet et de ce fait pouvoir analyser aussi les éléments qui ont permis cette diffusion et qui ont permis cette régression, quitte à d'autres de s'en emparer pour regarder ce qui se passe avec d'autres produits aujourd'hui.
Pourquoi Marseille en particulier ?
Alors pourquoi Marseille en particulier ? Parce que Marseille est une ville qui a été très fortement touchée par les usages et les trafics d'héroïne. Plus que d'autres, si on peut le dire comme ça, encore que Paris est une ville aussi qui a connu ces fluctuations importantes. Voilà, mais Marseille a payé un très lourd tribut. Entre autres en termes de mortalité, mais aussi en termes sociaux, etc. Marseille est une ville qui a payé un très très lourd tribut à l'héroïne.
On peut ajouter, j'imagine qu'on peut aussi le développer dans les années 80, justement, aucune politique autour de la réduction des risques, le sida, les échanges de seringues, la mortalité, effectivement, et c'est ce qu'on entend dans le documentaire d'Emmanuel Vigier que vous évoquiez tout à l'heure en début d'entretien, tous ces témoignages des gens qui sont tombés. C'est ce qui est expliqué d'ailleurs, c'est ce qui est raconté par cette vieille dame que vous rencontrez d'ailleurs dans votre ouvrage.
Oui, qui dit tous nos enfants tombés. Ce qu'il faut préciser dans cette question, c'est que aucune politique publique.
Oui.
Voilà. Aucune politique publique volontariste massive ne va être mise en place en France jusqu'au milieu des années 90. Mais ce n'est pas pour autant que personne ne fait rien. Alors ce qu'il faut préciser, c'est que c'est pas tant l'héroïne directement qui a tué des milliers de gens, souvent très jeunes. C'est l'infection virale par le partage des seringues. Bon, or, le virus du sida, on l'identifie au début des années 80, très vite on sait très vite que le partage des seringues propage cette infection et on met presque 15 ans à mettre en place, à ce que des politiques publiques soient mises en place pour protéger les usagers. Cependant, et dans le livre, c'est ça aussi que j'ai voulu raconter, parce que, évidemment, des témoins m'ont raconté ça. Cependant, il y a beaucoup de gens qui font des choses. Et notamment, beaucoup de gens qui s'autorisent d'eux-mêmes contre la loi, hein, qui pénalisent, criminalisent les usages. Il y a beaucoup de gens qui vont faire de la prévention, voire de l'action directement, dès les années 70, les années 80, des éducateurs qui voient les gamins en bas des immeubles s'abîmer, mourir, des médecins qui vont prescrire en toute illégalité, mais parce que pour eux, le geste de sauver est le premier geste à faire.
Si vous le voulez bien, on va écouter un extrait de ce documentaire de Emmanuel Vigier qui s'appelle également Héros, d'ailleurs, H-E-R-O, entre parenthèses, S.
Le premier shoot, par curiosité. Par curiosité, parce que j'ai lu un livre qui s'appelle Le Flash, et qui m'a donné la curiosité. Je suis curieuse de nature. Et il m'a donné envie de savoir ce que c'était. Et je me suis dit, si un jour j'ai l'occasion, j'aimerais bien savoir ce que c'est, parce que ça me paraissait hallucinant, les effets qu'il racontait. C'était fort. Et donc, en 82, quand j'ai eu l'occasion de goûter...
Dans quel contexte ?
Dans le contexte, j'avais rencontré un garçon qui touchait. Et lors de son anniversaire, il m'avait invité. On s'est retrouvés une bande de copains. Donc, et on est allés, ils sont allés toucher de l'héroïne. Moi, je ne savais même pas. Hein, ce n'était pas prévu dans mon programme, mais bon, j'ai dit bon, tout le monde y va, j'y vais quoi. Et la première fois, ils m'ont dit tu veux sniffer, mais tout le monde ils se piquaient tous. Donc j'ai dit non, moi je veux faire comme tout le monde. Donc voilà, j'ai jamais sniffé et je suis passée directement au shoot. Voilà, en 82.
Et là. Le flash.
Et là ouais, la grosse... l'éclate complet, parce qu'en plus, avant ça, j'avais picolé, j'avais fait un apéro monstrueux. Donc, j'étais déjà pas clean. Mais alors là, l'effet vomi, dans des états. Bon, le lendemain, je ne me rappelais plus de rien. Sinon que j'avais eu un effet vraiment très violent.
Mais c'était bon.
Ah, c'était bon, mais j'étais malade. Hein. J'étais malade parce que j'avais beaucoup bu, donc j'ai vomi. C'était bon et ça m'a donné envie de regoûter, mais dans un autre contexte, c'est-à-dire sans avoir bu. Parce que là, je ne voulais pas être malade. Donc là, dans la semaine qui a suivi, j'en ai repris. Cette fois-ci, sans avoir consommé d'alcool, parce que je buvais occasionnellement. Hein. Et là, je confirme que ça me plaît.
F pour flash, le grand voyage. Flash en anglais, cela veut dire éclair. Et pour un drogué, cela veut dire spasme. Le flash, c'est ce qui se passe dans le corps d'un drogué quand, poussé par le piston de la seringue, la drogue entre dans ses veines. Ça a la violence d'un éclair et l'intensité du spasme amoureux. Voilà pourquoi tout vrai drogué, un jour ou l'autre, en arrive fatalement à la piqûre et devient un junkie, un dieu ou une loque, au choix. Alors Claire, c'est par ces mots que débute Flash ou Le Grand Voyage, le livre de Charles Duchossois, qui a été publié en 1971 et dont Isabelle, qui témoignait devant la caméra d'Emmanuel Vigier, parle dans cet ouvrage. Vous consacrez un chapitre à ce livre, pourquoi ?
D'abord parce que c'est un livre culte, Flash. Moi, je ne le connaissais pas, ce livre, avant de travailler sur cet objet. Et tellement de gens m'ont parlé de ce livre Et d'ailleurs de plusieurs générations différentes, hein. C'est pas seulement des gens qui ont vécu ces années 70, tellement de gens faisaient référence à ce livre qu'évidemment je suis allée le lire et que j'y ai trouvé en effet quelque chose de qui ne m'étonne pas dans ce que dit Isabelle dans ce reportage, c'est-à-dire que cet ouvrage autobiographique hein, qui a été écrit par Charles Duchossois, il raconte l'histoire... son histoire qui dure à peine 18 mois hein, entre sa découverte des drogues et le moment où il revient mourant à Paris, il échappe de très peu.
Il est passé par Marseille hein, également.
Il passe par Marseille avant ouais, de partir pour Katmandou. Et c'est à la fois une lente, enfin pas si lente, 18 mois ça va vite, une lente tombée dans l'addiction très forte et aux portes de la mort, mais en même temps c'est une aventure incroyable, absolument incroyable, que n'importe quel jeune de 20 ans pourrait avoir envie de rêver. C'est l'aventure, c'est le voyage, c'est les rencontres, et puis ce sont les expériences. Voilà. Alors les expériences amoureuses, politiques, etc. Et puis les expériences
sociales aussi.
Sociales, bien sûr. Et puis ces expériences des modificateurs de conscience, quoi. Et il y a outre cela, une qualité merveilleuse d'écriture de Charles Duchossois qui raconte hein, cette aventure dont on comprend, même s'il le dit pas directement, que c'est absolument sans nostalgie et sans regret non plus. C'est-à-dire que ça a été une grande aventure de sa vie, voilà.
Dans vos enquêtes, Claire Duport, pour qui ont abouti à la rédaction de cet ouvrage, vous en avez entendu de ces histoires aussi, de ces témoignages. C'est aussi ce genre de voyages qui vous ont intéressé.
Pas plus cela que d'autres, parce qu'en fait, évidemment, on a fait de multiples rencontres, oui. De très nombreuses. J'ai rencontré beaucoup de gens, hein, beaucoup de gens assez divers. Et cette figure du traveleur, hein, qui au gré de...
Un peu l'image d'Épinal, comme ça.
Oui, absolument. Elle existe, elle est tout à fait réelle. Évidemment, c'est la figure des routards des post-68, mais c'est encore une figure contemporaine. Hein. Avoir 20 ans et avoir envie de découvrir la vie, le monde et de faire des expériences, c'est une figure très contemporaine aussi. Mais il y a tout un tas d'autres figures, donc pas plus celle-là que d'autres. Je pense que, dans le fond, ce qui m'a intéressée particulièrement et que j'ai essayé de redonner dans ce livre, c'est précisément la diversité des parcours, des figures, des types de gens. Voilà, et c'est une manière de montrer, de prouver que l'héroïne n'est pas une drogue marginale, pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'elle est anodine, bien sûr, et ça ne veut pas dire non plus qu'elle est majoritaire, encore heureux. Mais il y a tout un tas de manières diverses d'y venir ou de ne pas y venir, de s'en emparer ou pas, et puis de parcourir avec cette drogue. Vraiment très diverses.
Et différentes manières de la raconter. On va continuer cette discussion autour de Héros avec Claire Duport, un livre qui sera présenté en public le 26 janvier prochain à la librairie Transit, ici même à Marseille. Un extrait de la bande originale de The Wire.
When you walk through the garden, you gotta watch your back. Well, I beg your pardon. Walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, he's gonna save your soul. You gotta keep the devil way down in the hole. He's got the fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. We'll all be safe from Satan when the thunder rolls. We just gotta keep the devil way down in the hole.
Thank you.
angels sing about Jesus' mighty sword, and they shield you with their wings and keep you close to the Lord. Don't pay heed to temptation, for his hands are so cold. You gotta help me keep the devil way down in the hole. 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 You gotta help me keep the devil down in the hole.
Down in a Hole, la version de Tom Waits, version que l'on retrouve au générique de la série The Wire, série qui se passe à Baltimore, qui a été produite par HBO aux États-Unis au début des années 2000. Et vous y consacrez également un chapitre, Claire, dans cet ouvrage Héros dont on est en train de discuter ici à Radio Grenouille. Vous consacrez un ouvrage à cette série, je le disais, il a différentes manières de parler de l'héroïne, de la drogue, de ses trafics, d'une ville, et il a différentes manières de les raconter, et j'imagine que The Wire, pour vous, a été comme une influence.
Non.
Une référence.
Plus que ça.
Un document de travail.
Ouais, ouais, absolument. C'est une série que j'avais, que j'ai vue avant de ce travail sur l'héroïne, mais déjà il y a un moment, que j'avais trouvé génial, mais comme un spectateur. Mmh. Enfin, plus que ça, je l'avais trouvé génial comme une spectatrice classique de série, mais je l'avais trouvé aussi extrêmement documentée.
En français, c'est surécoute, je
voilà.
Vais pas préciser.
En français, c'est surécoute. Extrêmement documentée, parce qu'à cette époque-là, je travaillais beaucoup dans les cités, sur les petits trafics de rue, et je me disais, d'ailleurs je l'écris dans le livre, Baltimore, Marseille, années 90, aujourd'hui, c'est confondant de vérité.
Avec le port en déliquescence et tout ça.
Ah ouais, ouais, ouais. Et puis, la réalité de enfin, la véracité et la vérité de ce qui est analysé dans cette série. Donc, je l'ai revu plusieurs fois en entier, comme un document de recherche, tout comme on va chercher des bouquins, des documents d'archives, etc. Pour moi, cette revue cette série The Wire, mais aussi les ouvrages qui ont précédé la série écrite par David Simon, sont d'une immense qualité informative et d'analyse.
C'est fondamental pour vous, justement, que ce travail, donc vous parlez de David Simon qui a produit la série, accompagné également d'un ancien policier, hein, Ed Banks, hein, c'est bien
ouais.
Ça. C'est fondamental pour vous, justement, que ce travail de terrain nous serve à parler autrement de sujets comme l'héroïne, où les raccourcis sont très souvent très faciles à faire.
C'est-à-dire que The Wire serve à
que
la recherche.
Que ces travails de terrain nous permettent de parler autrement de ces drogues.
Et c'est pas tant parler autrement, parce que si on le disait comme ça, ça voudrait dire que tous les points de vue se valent. Et moi, je pense que tous les points de vue ne se valent pas. Qu'il y a des choses qui sont vraies et qu'il y a un paquet de conneries qui sont racontées sur les drogues. Et donc, The Wire, parmi bien entendu d'autres documents,
oui.
Mais peut-être le seul en matière télévisuelle, est un type de document tout à fait informatif et qui ne raconte pas des conneries. Voilà. Donc,
et il y en a beaucoup.
C'est pas un parmi d'autres, ouais. C'est un seul en particulier.
Qu'est-ce que vous retenez le plus, Claire Duport, du processus justement de cet ouvrage? Une rencontre,
Alors,
difficulté
Plusieurs choses. Ce que j'en retiens, c'est que j'ai beaucoup d'affection pour cet ouvrage, parce qu'en fait, cet ouvrage, il est empreint de ce qui a été pour moi, et je sais que c'est pas que pour moi, pour beaucoup des gens que j'ai rencontrés, et c'est empreint d'une aventure formidable qui consiste quand même à revenir sur une histoire douloureuse, mais pas seulement, aussi drôle, de fête, etc. Et puis, des rencontres. Exceptionnelles, des rencontres que je n'aurais pas faites si je ne m'étais pas lancée dans ce travail. Donc voilà, j'ai beaucoup d'affection pour ça, pour cet ouvrage, parce que j'ai essayé, je m'y suis mise, mais j'y ai mis, pas tous, loin de là, mais beaucoup de gens qui ont contribué en fait à leur manière à cette recherche et qui nous apportent des savoirs et des connaissances. Et puis c'était aussi un pari d'écriture. Moi, j'avais l'habitude d'écrire la sociologie dans des bouquins que personne ne lit jamais, des revues très spécialisées, tout ça. Mais pour moi, ça a été un vrai pari, quoi, d'écrire un bouquin pour tout le monde. Et Baptiste Lanaspez, l'éditeur, m'y a beaucoup aidé à cette écriture, mais d'autres aussi. Michel Sanson, Michel Peraldi, avec qui je travaille depuis longtemps. Voilà, et j'ai aussi de l'affection pour cet ouvrage, pour ça. Ouais.
Et ça vous a également fait poser des questions sur votre propre... relation à la drogue.
Ah oui, absolument. Absolument. Mmh. Ça m'a fait poser des. Je me suis posé.
Je rappelle que vous travaillez depuis longtemps dessus. Ouais. Enfin, voilà. Mais sur le fait de cet ouvrage, justement, ouais. de Véro.
Oui, je. C'est-à-dire que ça m'a fait moi aussi, c'est-à-dire en questionnant des gens sur leur histoire, ça m'a fait moi aussi questionner mon histoire et me souvenir de choses que j'avais complètement oubliées ou que j'avais tout à fait négligées. C'est que l'héroïne, elle a aussi traversé mon histoire, comme elle a traversé l'histoire de finalement énormément de gens. Ça a été une surprise aussi autour de moi, mais oui, un cousin, soi-même, un frangin, bon. Voilà. Et puis...
C'était pas qu'un objet d'étude.
Ouais, c'est ça. Ce n'était pas qu'un objet d'étude. Et plus largement, ça m'a interrogée sur la société dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire que la drogue pour la drogue, c'est pas un objet phénoménal de recherche, etc. C'est un objet phénoménal de recherche parce que ça vient nous dire des tas de choses de notre société, du monde dans lequel nous vivons, de nos valeurs, de nos manières de vivre, d'aimer, de mourir aussi.
Merci beaucoup Claire Duport.
Merci,
d'être venue dans le studio de Radio Grenouille parler de ce livre Héros, excellent, publié l'année dernière et dont une présentation publique va être effectuée à la librairie Transit 45 Boulevard de la Libération, ici même dans le premier à Marseille. Ça se passera le 26 janvier prochain. En attendant...
À 19h.
Ah bah merci, à 19h. On va s'écouter pour terminer un dernier extrait du documentaire réalisé par Emmanuel Vigier, qui a accompagné également la sortie de ce livre, documentaire qui s'intitule également Héros et que nous ne pouvons que vous conseiller, bien évidemment, Claire.
Je dis juste une petite chose, j'ai plus la date en tête, mais le documentaire va être présenté au Théâtre du Merlan, dans le cadre des cinémas du Théâtre du Merlan, en mars.
C'est ça.
Voilà.
On y reviendra et dans tous les cas, on va continuer à traverser et à écouter et à réfléchir à ces sujets autour de la drogue avec vous, Claire, dans quelques semaines sur Radio Grenouille.
J'essaie de... d'en faire une fiction. Ça me travaille depuis longtemps. C'est quand même une période qui m'a marqué, qui est importante dans ma vie. Même si l'histoire peut être noire, de par tous les morts que l'héroïne a pu provoquer à Marseille, quoi, que ce soit par overdose, par suicide, par le sida. Moi, j'ai pas envie d'écrire une longue épitaphe là-dessus. J'ai envie de raconter toute la vie qu'il y avait à ce moment-là, toute cette envie de vivre, quelque chose d'un peu... une attitude un peu rageuse, quoi, par rapport à la vie qui nous a poussé, à beaucoup d'entre nous, à faire des conneries, mais aussi apprendre à vivre, à brûler la vie, quoi, à faire des expériences. Et c'est cette vitalité-là que j'ai envie de raconter. J'ai pas envie d'écrire ni un testament, ni une épitaphe, ni une longue plainte sur un échec, parce que je n'arrive pas à le concevoir comme un échec.
Un immense merci encore une fois à Claire Duport d'être venue présenter dans le studio de Radio Grenouille Héros, au cœur de l'héroïne, sortie aux éditions White Projects, présentation publique 26 janvier prochain, 45 boulevard de la Libération. C'est là où se trouve la librairie Transit que l'on ne peut que conseiller. Toute information, référence, etc., etc., www.radiogrenouille.com.